bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non, on n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Vivre libre ou mourir. Activiste queer à Lyon, J. Rowe crée le fanzine Star en 92. Puis il écrit dans Bang Bang, fanzine, PD et tapette, radical, francophone. En 97, il tombe sur trois mecs, homophobes, qui lui font sa fête. Coup de pied, coup de poing et de bite. Tout un tas de questions se posent alors à lui, entre utopie et évidence, certitude et crainte. Comme un chien, Giro. Lyon, quartier de la Croix-Rousse, jeudi.
Marcher vite. 16h50. Courir, se précipiter, stresser. Arrêt de bus. Numéro 3. Attendre le bus en tapant des orteils dans les baskets.
16h51. 16h53.
Se mordre les dents d'impatience.
16h54.
Le bus arrive. Monter dans le bus sans raquer, le bus démarre. Embouteillage. Le feu est rouge.
16h57.
Se mordre la lèvre et s'écorcher le sang. Se frotter le nez. Regarder dehors. Se ronger les ongles et les petites peaux autour. Regarder les passagers. Embouteillage. Regarder son poignet gauche alors qu'il n'y a pas de montre. Regarder dehors. Putain, merde!
17h pile. Arrêt de bus.
Je saute du bus et me précipite vers l'esplanade de la gare de la Part-Dieu. Mes deux sacs de voyage sur le dos, je cours. Même pas le temps de me dire que ce quartier est vraiment moche et glauque. Entrée du hall de la gare. La gare est un immense hall. Tableau des départs des trains. Bourges, direction Nantes. Nantes, c'est écrit où? Départ dans 2 minutes, qu'est-ce que j'ai? Je cherche, qu'est-ce que j'ai? Je monte l'escalator, je suis sur le quai. Le train est encore là. Contrôleur, pas de contrôleur. Je grimpe dans le wagon. Relax. Je file le long d'une allée de fauteuils. Je m'assois. Je n'aurais jamais dû courir pour prendre le train. Je n'aurais jamais dû courir pour prendre ce train. Je n'aurais jamais dû courir pour me jeter dans la gueule de ce train. Quoique, on ne dit jamais jamais. Je m'assois au fond du wagon des voyageurs. Au fond, à gauche. Près de la porte au double battant. Près des étagères à bagages pour être invisible. Comme n'importe quel cancre de la SNCF. Parce que j'aimerais être invisible, me fondre dans le décor du compartiment, être fauteuil à la place du fauteuil. Parce que c'est comme ça, je crois, que j'ai toujours espéré être invisible. Ou le contraire. C'est tellement désespérant. Je me suis blottie sur le siège de la dernière place, au fond à gauche, parce que cette place, en coin, elle en vaut bien d'autres. Elle me protège du dehors. De là, j'observe les hostilités du monde. Je guette l'ennemi. En coin d'œil. Par goût, par non-choix, ou par choix. Je me suis assis à cette place pour qu'on me foute la paix. Les portes à double battant s'ouvrent brusquement et se referment tranquillement en laissant passer le froid de l'extérieur. Les poignées claquent, tels des clapets, et ouvrent régulièrement ces portes d'un bruit sec et mécanique. Lorsque quelqu'un sort du wagon pour aller aux chiottes, fumer une clope pour téléphoner, marcher ou changer de compartiment. Je sursaute à chaque ouverture. Mon cœur se serre, hoquette et défaille. Ça me stresse à l'intérieur des nerfs. J'ai pas envie de voir la tronche du contrôleur débarquer. Assis auprès de la fenêtre, mon reflet regarde les paysages de cette fin de journée de fin d'octobre. Les jours sont courts, trop courts à ce moment-là de l'année. C'est l'automne. Avec l'humidité de l'air qui annonce la pluie, le froid qui annonce le froid. Et l'ombre des arbres, l'ombre des branches comme des bras maigres et osseux qui s'effeuillent et se recroquevillent. Je monte à Bourges pour la 2e édition du festival Émosson. Le trajet est long. Lyon, Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Moulins-sur-Allier, Cézanne et Bourges. Des heures de trajet. Ils ont des formations pour les suicider. Ils leur disent de ne pas les regarder dans les yeux, de détourner le regard si un gars sur le quai les fixe dans les yeux. Quand un gars te regarde dans les yeux, c'est qu'il veut suicider. C'est déjà arrivé deux fois à Steve. La première fois, le gars l'a regardé dans les yeux. Mon beau-frère a détourné la tête et il a senti le corps sous ses roues. Il a eu un mois d'arrêt maladie. Il a eu du mal à s'en remettre, traumatisé. La deuxième fois, il a vu une gamine qui traversait la voie avec son vélo. Il a klaxonné et klaxonné, mais la gamine est restée immobile, pétrifiée. Il a freiné, mais c'était trop tard. Quand le train s'est arrêté, il a été voir. Le vélo était déchiqueté, mais la gamine avait juste des fractures aux jambes. Elle n'était pas morte. C'est pas croyable, hein? Pas croyable. Oui, acquiesce sa copine. Surtout qu'elle était innocente. Il arrive parfois que les mots fassent des empreintes dans le silence. Le contrôleur passe.
Contrôle des billets, s'il vous plaît.
J'ai pas de billets. J'ai pas de billets, trop cher. Puis dans ma culture punk à moi, on grille le train, par principe. On grille le train, on boit de la bière, du gin, de la vodka, et du parfum occasionnellement. Des tripes à l'heure du goûter et du speed au petit déjeuner. Pour se déchirer la cervelle et danser sur les strangulations de l'âme. On se bourre la gueule, on bosse pas, on squatte, on resquille. La queue hobo. J'écoute de l'anarcho-punk, du hardcore, je suis anti et j'emmerde le monde. Philosophie du fuck-off et combine de branleurs. La vie est un terrain de jeu désinvolte, une insolence aux règles du jeu. Vivre libre ou mourir, abat l'humanité.
Bon billet, s'il vous plaît.
J'ai pas de billet.
Comment ça?
J'ai pas assez de monnaie.
Pas de billet? Pas de train? Vous sortirez à la prochaine gare.
Non, mais je fais des pieds et des mains. J'ai le gosier qui ravale sa salive, ça craint. Je lâche pas l'affaire. Je minaude, j'essaie de négocier. Parfois, ça marche. Rien à négocier, celui-là est vraiment un fils d'eux. Il me jette du train à Saint-Germain-des-Fossés, le bled. Quelle merde. Je suis pas le fier, il doit être environ 19h30. 7h30 du soir à Saint-Germain-des-Fossés. Je passe à la buvette boire un demi, le prochain train est dans 5h. Et il va à Vierzon, il ne s'arrête pas à Bourges. Galère. Il ne me reste presque plus de thunes. Bon, qu'est-ce que je fous là? Angoisse. Pas content. La nuit noire. Je demande la direction de la poste à la patronne de la buvette. Je vais aller retirer un peu de caillasse à l'automate pour boire quelques bières en attendant le prochain train. Prenez la première rue à droite, là, en sortant de la gare. Ok, merci. Non loin de là, sur le chemin, je croise une bande de gars. Trois sont dans une bagnole, trois autres boivent de l'alcool à 90 mélangé à du jus de fruits. La bouteille d'oasis en plastique est posée sur un mur. Ils parlent entre eux. Je marche, main dans les poches. L'un d'entre eux attrape mon bonnet à mon passage. J'ai les cheveux roses. J'essaie de le rattraper. J'ai des bagues aux doigts, les ongles longs, correctement limés et vernis en rose fluo.
Aidez !
Je ne suis pas sûre de bien avoir compris. Ou je m'imagine que je n'ai pas compris. Ou je fais celui qui a compris autre chose. Je ricane comme un bouffon. Les trois mecs dans la bagnole se cassent. Je reste seule avec les trois buveurs. Celui qui m'a pécho le bonnet avec son blouson noir. Il garde le bonnet à la main et ne veut pas me le rendre. Il m'attrape par le bras, me ceint, me le serre fort, ne me lâche pas. Il est grand. Ils sont grands, costauds.
Bédé.
Ils ne parlent pas français, je ne comprends pas. Ils me disent de boire. Je refuse. Ils me forcent. Je rentre mes lèvres dans ma bouche, je ne ricane plus. Je cherche à me barrer, à extirper mon bras de sa poigne. Mes sacs de voyage glissent de mes épaules, je ne voudrais pas les perdre. Il me serre le bras fort. Je m'agrippe au sac. Il m'entraîne petit à petit vers l'escalier qui mène au parc. Il me tire. Les autres me poussent. J'essaie de résister, j'essaie de parler, de me faire comprendre, de m'expliquer, de freiner mes pas, leurs pas, nos pas. Ils sont plus forts que moi. J'arrive pas à crier. Le parc est mal éclairé, humide et froid. J'essaie de leur dire que je ne suis pas pédé, qu'ils se trompent. Mais il est un fait. Tout le monde sait qu'un mec hétéro, qu'un bon gars, qu'un vrai mec, n'a pas les cheveux roses, une paire de lunettes fantaisie sur le nez, des bagues au doigt, et du vernis rose fluo sur les ongles longs, soigneusement limés, qui ferait crever de jalousie toutes les fausses ongles de la panoplie Barbie. Les hommes ne sont pas des pédés, et le vice est versa. Les pédés ne sont pas des mecs. C'est grâce à cela, à la pertinence de ces détails, qu'on nous reconnaît d'ailleurs. Et ce savoir est collectif. Ils le savent aussi. Ils ne me croient pas. Je ne suis pas convaincant. Non crédible. Disent-ils. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, ou je feins de ne pas le savoir. C'est la seule stratégie que j'ai trouvée. C'est franchement naze. Tout est tellement brusque et incontrôlé. J'ai tellement peur. Mon cœur frappe contre les barreaux de sa cage thoracique. Je voudrais éviter le pire sans me dire une seconde que je suis déjà dedans. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je crois savoir ce qu'ils veulent qu'il se passe. Je crains ce qu'il va se passer. Dans le parc, je suis encerclée par la bande. Le gars au blouson noir semble vouloir apaiser la situation. Les deux autres me frappent, chacun leur tour. Coup de pied, coup de poing, béquille, balayette. Je me relève. Coup de poing, je me relève. Je perds mes lunettes. Je tâte le sol pour les retrouver. Je les ramasse. Elles sont esquintées et les branches sont écartées. Elles tiennent mal sur le nez. Coup de pied dans la gueule. Pff, éclair. Je sens mon œil et ma bouche gonfler. J'essaie de garder mon sang-froid là où tout est turbulent. De maîtriser ce qui ne se maîtrise pas. De parler. Encore et encore. Mais les deux autres me frappent. Encore et encore. Chacun leur tour. Béquille, balayette. Je tombe. Je me relève. Automatiquement pour résister. Ne pas céder. Ne pas leur laisser croire que je suis foutue. Ne pas leur laisser croire que je suis une fiotte. Ne pas être une proie facile. Ils sont énervés. Aldo, Loubri. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas si je vais sortir de là vivant. Pour le moment, il n'y a pas d'issue. Aucune issue. Ce sont les maîtres, je suis le chien. Le blouson noir, celui qui m'a agrippé le bras, essaie de temps à autre de calmer ses copains. Il m'amène vers le fond du jardin. Il me dit « bouche ». Je crois qu'il me demande de le sucer. J'hésite. Si je le suce, c'est que je suis pédé, alors que j'essaie de lui démontrer vainement le contraire depuis tout à l'heure. Je ne suis pas pédé. Si je le suce, je vais devoir m'agenouiller et me trouver dans une position dangereuse. Lui debout et moi à genoux, à sa merci, à leur merci. Ou peut-être, me laisseront-ils tranquille une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils souhaitent ? Je ne sais pas. Il sort sa bite. Le suce. De façon neutre, autant que possible. C'est ma façon de résister. Je le laisse bouger sa queue dans ma bouche sèche, mes lèvres gonflées par les coups. Je ne fais rien avec ma langue, comme une grève générale. Ça ne lui convient pas. Il m'amène ailleurs, sur un muret, et me demande de m'asseoir. Je m'assieds. Il appelle un de ses potes, le plus grand, qui à son tour sort sa bite de son futal de sport. Il bande. Belle queue. Je le suce tout en branlant le premier. Un bref instant, je me dis que ça pourrait être excitant. J'ai peur. J'ai le fond du caleçon qui mouille. Je bave de la bite. J'ai ma cervelle qui se dit que je ne serai peut-être agonisant ou mort dans 10 minutes. Qu'il faudrait que je pense à sauver ma peau et mes os. Tant de choses circulent et s'entrechoquent dans ma tête. Je sais que ces types peuvent me tuer. Le premier éjacte dans ma bouche et finit par se branler sur moi. Je suce le gars au blouson noir qui finit par se lâcher dans ma bouche. Le troisième surveille l'entrée du parc. Il les avertit d'un truc que je ne comprends pas. Enfin si, je crois qu'il dit « gendarme ». Peut-être que les gendarmes passent en bagnole dans la rue. Qu'il faut faire moins de bruit. Je ne sais pas. Je pourrais hurler. Je ne hurle pas. J'ai trop peur qu'il me tue si je crie. Peur de crier pour rien, que les flics ne m'entendent pas. Et puis peut-être qu'il leur a dit autre chose. Peut-être qu'il n'y a pas de gendarme. Loubri, Aldo. Il me frappe à nouveau, me frappe encore. Le blouson noir qui jusque-là calmait l'enthousiasme de ses potes se déchaîne. Je voudrais partir, que ça finisse, mais c'est pas moi qui décide. Pause. Il me fouille, ouvre mes sacs de voyage et trouve mon couteau au Pinel. L'un d'eux ouvre la lame et menace de me couper les couilles. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête plus. S'il me coupe les couilles, s'il me file un coup de lame, ils devront me tuer. Ils ne pourront pas me laisser vivant, trempé dans mon sang. Témoin. Je crois que je vais mourir. C'est une question de secondes qui s'écoule. Vite et lentement. sens incapable de m'enfuir. Je pourrais m'échapper. Je crie. Enfin, je crie. Il range mes affaires éparpillées dans mes sacs éparpillés. Tranquillement. Je peux partir. Je crois que je peux partir. Je leur demande. Ils me disent de partir vite. De prendre mes sacs. Je marche rapidement sur l'herbe glissante. Ils me rattrapent. Balayette. Je glisse. Je tombe. Ils me savatent. Coup de pied. Je perds mes lunettes et ils les ramassent et partent avec. Enfin, je suppose. Je sais pas. Je vois pas. Ils s'éloignent, paisiblement, comme si de rien n'était. Je reste seule. Je reste là, infiniment seule, avec le parc. J'entends encore leur voix qui s'éloigne. Je cherche mes lunettes, baissées dans l'herbe mouillée. Je les trouve pas. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ils m'ont dit de partir vite. J'ai très peur. Ils peuvent revenir. Je me casse. Vite. C'est où ? Par où je passe ? Le jardin est mal éclairé. La lumière des quelques lampadaires est floue sans mes quatre yeux. Je cherche une sortie. Je vois le panneau gendarmerie. Je n'ai pas la confiance. J'y vais pas. J'ai une gueule de coupable. J'ai pas envie qu'ils me prennent la tête. Il y a un vieux qui promène son chien rabougri sur le trottoir. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me venir en aide ? Je viens de me faire tabasser là dans le parc. J'ai perdu mes lunettes, je vois rien. Vous pouvez venir m'aider pour les chercher ? Je le supplie avec ma tronche défoncée et mes genoux à genoux dans ma tête. Il me dit :
vous n'avez qu'à la gendarmerie, là.
M'indiquant la direction d'un petit coup de menton, les épaules baissées. Il ne parle pas fort, il ne peut pas comprendre. Il doit flipper lui aussi. Il est seul avec son chien et il veut juste qu'on lui foute la paix. Je veux pas aller à la gendarmerie. Je me sens abattu, perdu, merdeux, absent. Mais qu'est-ce que je fous là, ici ? Histoire glauque. J'ai du mal à percevoir le réel. J'ai la cervelle en copeau de vent. Je ne suis pas apte à départager le vrai du faux dans ce cauchemar. Ahuri. C'est comme dans un film, je ne maîtrise rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ce qui vient de se passer. Je ne vois que ce que je crois. J'implose. Dans ma tête, c'est la guerre. Mes pensées sont furtives et s'éliminent comme des mines antipersonnelles. Rien ne tient. Tout est fébrile. Tout m'échappe. J'ai l'impression de divaguer. Il faut que je me planque. Que je me réfugie. J'aurai besoin de réconfort. Pas à la gendarmerie. Je redescends la rue, puis tourne à droite. Je crois que c'est par là. Le parking, la gare. J'entre dans le hall. Bon, je fais quoi là ? Comme une merde, comme un zonard. La gueule démolie, mes cocards et ma myopie. Même pas mort. Dans la salle d'attente, une fille seule, assise, attend avec sa valise. Le silence fait écho. J'appelle un copain de la cabine téléphonique. Il me reste plus que 4 unités sur ma carte. Je lui explique rapidement le problème, la grimace aux lèvres et les larmes aux yeux. Ok, il vient me chercher avec des amis. Les amis me rappellent.
Bon, bouge pas. Le chef de gare va venir te chercher pour te mettre dans un endroit safe. Bouge pas, hein.
Je vais les attendre là car la route est longue entre Lyon et Saint-Germain-des-Fossés. Même pas mort. J'ai eu peur, très peur. La peur de mourir, j'ai failli crever. J'y ai cru. J'ai cru vivre mes dernières minutes, mes dernières secondes, phase finale, dans le cul de la lutte finale. Ils auraient pu me tuer. Chacune de ces secondes comptait comme une éternité. Des secondes comme un goutte à goutte. Goutte après goutte. Des gouttes d'une amplitude que je ne connaissais pas. Goutte ultime, comme une agonie. Dans l'attente sans fin de la fin. Des secondes lourdes du passé et du présent. Des secondes brutales. Où je me suis dit que j'aimerais la vie tout le reste de ma vie s'il ne me tue pas. Je le jure sur ma croix. Mais c'est pas moi qui décide. Moi, je n'étais rien. Rien. C'est long. Et c'est très rapide. Insaisissable. Imperceptible. Le temps est élastique. Il s'étire, se rétracte, se comprime, se recroqueville. Bondit et rebondit. Incontrôlé, extensible, pesant. Il fait 30 ans à chaque instant. Les secondes ne se fatiguent pas. Secondes harcelantes, elles ne se finissent pas, ne s'arrêtent pas. Les aiguilles disparaissent de tous les cadrans. Là, le temps n'existe plus. C'est une extravagance. Le chef de gare me récupère près du poste téléphonique. Il m'amène dans une petite pièce adjacente. Je vais pouvoir attendre mes potes sans tracas. Je fume des clopes. Je note Aldo Loubry sur un carnet. Ces mots, il me semble les avoir entendus prononcer plusieurs fois. Peut-être s'agit-il de leur prénom. Ils m'ont dit qu'ils étaient yougoslaves. Enfin, ils disaient Yugo. Je crois que c'est la guerre là-bas. Quelle heure est-il? Le temps s'était absenté un moment. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être deux heures, je sais pas. C'est le temps qui veut ça.
Vendredi.
J'ai pas beaucoup dormi. Nous avons roulé toute la nuit et sommes arrivés tôt ce matin à Lyon. Fin de matinée, fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Avec ces trois gars? Avec mes coups dans la gueule, mes nions, mes fringues pleines de terre et de verdure d'herbe? J'enlève mes bagues. Je me coupe les ongles. J'enlève le rose au dissolvant. Les salauds. Ils m'ont bien eu. Maté, maté. J'ai pas envie de jouer. Abat la fantaisie. Fuck la frivolité. Fuck l'être et sa légèreté. J'ai pas le courage. Je n'ai pas envie de rire. La fête est finie. Pour le moment. Pose ta fiole. Je téléphone à un copain qui bosse sur les violences masculines. J'appelle une copine féministe. La copine me file un rencard et m'accompagne à Cabiria, l'association lyonnaise de santé communautaire avec les personnes prostituées. Elles sont confrontées aux viols et aux violences. Discussion. Faut faire un petit check-up chez le médecin pour commencer et un contrôle HIV et MST.
Tu veux un avocat?
Faudrait porter plainte aussi. Porter plainte. C'est un problème. No positive vibration. Je ne me sens pas du tout connectée avec la police. Pas plus qu'avec les palais de justice, la classe qu'ils représentent et qu'ils défendent. Je me suis toujours sentie coupable dans les commissariats. En même temps, jusque-là, je n'ai jamais fait que des gardes à vue pour des histoires de shit, de squat, de larcin et de rapine. Suspectée d'être coupable. Police partout, justice nulle part. Et puis, je me sens franchement pas une victime. Victime. J'aime pas ce mot. Il me plaît pas. Il me convient pas. J'assume pas. Je refuse d'être une victime. C'est tellement infantilisant. Ça suit le verbiage de la compassion, le sourire mielleux et les tapotements dans le dos, l'accolade. Les victimes sont des objets modernes, des bibelots et breloques pour faits divers. On les aime comme elles sont. On aime qu'elles se plaignent, qu'elles se sentent impuissantes, dépressives, faibles, perdues, en détresse ou en insécurité permanente. Une victime aimable est une victime qui a peur. La victime participe à la promotion de la peur. Elle est un des maillons indispensables à la propagande de la terreur. Les médias nous en vomissent la publicité tous les jours. Des cerveaux pétrifiés, tremblant dans le jus de leur frayeur. Accablement, prostration, neutralisation globale. Les victimes sont les héros et les héroïnes des journaux et des magazines téléflics. Le tapis rouge de l'émotion et des peines capitales. Ce sont les femmes et les enfants d'abord. Alibi provisoire, corps dominé, corps minorisé, que la Vox Populi et Vox Dei, que la foule et la culture générale conchient 24 heures sur 24, et dont les institutions et l'industrie médiatique se contrefoutent 7 jours sur 7. Victimes. Gens dociles qui ne demandent rien à personne et qui se font confisquer leur bagnole, leurs médicaments, la téloche, le congélo et leurs photos de famille un soir de crue. Des gens obéissants. En otage les jours de grève de cheminots. Des gens bien, des gens parfaits. Les victimes sont vertueuses. Les victimes parfaites souhaitent que les peines à perpétuité soient perpétuelles. Que la réponse au crime soit aussi telle, absolue. Que le statut de victime ou de criminel soit sans faille. La victime doit être le contre-exemple du criminel, être impérativement irréprochable, honnête, inoffensive. Je ne le suis pas. J'espère que je ne le suis pas. Je me souhaite de ne jamais l'être. Je ne suis pas de ce côté-là du monde. J'ai pas envie. J'aime le rebelle. Je préfère le polisson au polissé. Une question de goût. Je ne me sens ni victime ni coupable de la situation dans laquelle je patauge. Je ne ressens aucune culpabilité, parce que je pense depuis bien trop longtemps qu'un jeune homme aux cheveux roses, aux ongles longs, limés et vernis, mérite le respect et la bienveillance. Et que depuis très longtemps, je ne m'autorise pas à fréquenter des gens qui pensent le contraire. Mais là, en cet instant, je me sens affectée, faible. J'ai besoin d'être rassurée ou soutenue, maintenant, comme la plupart d'entre nous, parfois. Basta. Je suis capable d'être
d'être victime d'une situation inextricable jusqu'à ce que je me débarrasse de l'inextricabilité de la situation. Je suis victime d'homophobie lorsqu'un connard me traite de tapette et que soudainement je me sens terrorisée, submergée, paralysée, piégée par la menace, mes peurs et mes tremblements. Je le suis de façon lancinante lorsqu'un ensemble de croyances, de gestes, d'insultes, de coups, d'attitudes, d'habitudes, de silences, de blagues, d'a priori ou autres préjugés anti-PD font socle de l'organisation sociale dans laquelle je me lève chaque matin, jour après jour. Certes, mais on s'habitue, et ce n'est heureusement pas tous les jours le calvaire. Il y a des jours sans, des jours off, des jours pause. Des jours où je vais savoir contourner les obstacles plutôt que de les affronter ou de les subir. Esquiver les traquenards, c'est une question de mental. Il m'arrive d'être victime de moi-même, menottée par mes propres jugements et incapacités. Fuck off, je ne veux pas être une victime à temps complet. Je ne veux pas être une victime de viol à temps complet. Parce que je sais qu'il peut être très difficile de s'en sortir.